Salut Raphaël.
Salut Pat.
OK, donc Donald Trump a été acquitté dans son procès pour impeachment au Sénat. C'était le deuxième procès du genre. C'était pas une surprise.
C'était pas une surprise. Et je pense qu'il y a deux réactions principales au verdict. La première, qui est peut-être la plus normale, la plus compréhensible, c'est de dire, bon, il s'en sort encore, il est pas reconnu coupable, il est acquitté. Qu'est-ce que ça prend en bon français pour le condamner si ce qui s'est passé le 6 janvier dernier, c'est pas assez? C'est raisonnable, je comprends cette position-là. Je te soumettrais que c'est peut-être pas la seule ou même la meilleure façon de le voir. C'est-à-dire que, oui, Donald Trump a été acquitté. Oui, constitutionnellement, il s'en est sorti. Mais comment est-ce qu'il s'en est sorti? Ben, il s'en est sorti à cause de l'espèce de règle byzantine là, des deux tiers au Sénat. Ça prenait 67, non pas 51, mais 67 voix sur 100 au Sénat pour le condamner. On n'en a pas eu 67. Mais on en a quand même eu 57. Et 57, c'est important pour plusieurs raisons.
C'est une majorité, là. Mais c'est pas la majorité nécessaire.
C'est pas la super majorité nécessaire, mais c'est la première majorité qu'on peut dire bipartisane de l'histoire américaine pour condamner un président, ou là, en l'occurrence, un ex-président. Qu'est-ce qu'on veut dire par bipartisane? Ben, on veut dire que c'est la première fois qu'il y a une majorité qui est composée de sénateurs des deux partis qui votent pour condamner un président. Tu peux remonter au premier impeachment, au 19e siècle, tu n'avais pas eu ça. Et jusqu'en fait, au premier procès contre Trump, il y a un an. Il y a un an, il faut le rappeler, il avait été acquitté avec une majorité du Sénat qui avait voté pour l'acquitter. Là, il a été acquitté avec une majorité du Sénat qui a voté pour le condamner. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que 57, c'est et de loin le plus grand nombre de votes coupables, de votes de culpabilité reçus par un président, là aussi de l'histoire américaine. Mais ça va laisser des marques quand même.
La question qui reste entière, là, c'est, OK, Trump a été acquitté, mais c'est quoi son impact, c'est quoi son influence maintenant sur les républicains? Ça, le jury est encore en train de délibérer.
Oui, absolument. Et en fait, dans le verdict de samedi, tu avais une indication assez claire qu'il n'y a pas de réponse évidente. Voici ce que je veux dire par là. T'sais, sur les 57 sénateurs qui ont voté pour le condamner, tu avais les 50 sénateurs démocrates. Tous les démocrates ont voté pour, pas une grosse surprise. Mais tu as quand même eu 7 républicains. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que de un, ça aussi, c'est un précédent. On n'a jamais eu quelque chose de tel. Autant de sénateurs du parti du président qui votent pour condamner le président. Sur les 7, tu avais les 6 qui, tu vas peut-être te rappeler, on s'en parlait la semaine dernière, là, avaient voté au tout début du procès pour reconnaître la constitutionnalité du procès. Mardi dernier, jour 1 du procès, premier vote protocolaire, on demande aux sénateurs, est-ce que, oui ou non, c'est constitutionnel de mener un procès en destitution contre un président qui n'est plus en fonction? Tu as seulement 6 républicains à ce moment-là qui votent pour dire oui. Oui, on reconnaît que c'est constitutionnel. Mais les six au final, ont voté pour condamner Trump. Et écoute, il y en a même eu un 7e qui s'est ajouté, qui initialement avait même pas jugé que c'était constitutionnel le procès, mais après avoir entendu les arguments de part et d'autre, s'est dit, même si je pensais pas ça à la base, j'ai pas le choix de voter pour condamner Trump. Fait que c'est quand même pas rien. En termes de perte d'influence, ça note quelque chose, ça dénote quelque chose. En même temps, c'est là que je te dis que ça illustre à quel point c'est pas évident, sur les 7 sénateurs républicains qui ont voté pour le condamner, t'en as 5 qui soit ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas ou qui n'ont pas à se représenter avant 2026. Parce que comme tu le sais sans doute, là, c'est pas tous les sénateurs qui sont en élection en même temps aux États-Unis. Donc, il y en a qui vont être en élection, en réélection en 2022, 2024, 2026. Bon, autrement dit, pour ceux dont le siège est en jeu là, à très court terme, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé se mouiller puis défier Trump et ses électeurs. Fait que ça te montre que oui, il est en perte de vitesse, il est en perte d'influence, mais il y a encore visiblement une masse critique de républicains qui ont peur de lui.
Au-delà de Trump, là, est-ce que le Trumpisme va continuer à être dominant dans ce parti-là? Tout ce qui est nationaliste, tout ce qui est les signaux à peine codés aux racistes, là, tout ça, là, est-ce que ça va survivre à Trump?
Je pense que oui, largement, le Trumpisme, au moins sous une forme ou une autre, ça va survivre. Est-ce que Trump, politiquement, va survivre? Ça, pour revenir au point précédent, c'est pas clair pour moi. Puis, il y a une chose, je pense qu'on... C'est comme si on l'a juste pris pour acquis très rapidement. Mais le fait qu'il n'ait plus de compte de médias sociaux, tu sais, je te demanderais juste d'imaginer à quoi tu penses qu'aurait ressemblé la fin de semaine qu'on vient de vivre si Trump avait encore un compte Twitter. Fait que la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que s'il est vraiment en perte d'influence et qu'il veut en regagner, comment est-ce qu'il réussit à faire ça sans Twitter, sans Instagram, sans YouTube, sans Facebook. Je veux dire, il est barré de partout, par tout le monde. Fait que revenir à l'avant-plan comme il l'a déjà été, je ne dis pas que ça va être impossible, ça va être possible, mais ça pourrait être plus difficile. Fait que c'est bourré de questions. Je te mentionne aussi ceci rapidement là, avant qu'on se laisse, parce que c'est important en se parlant du procès et de ce qui s'est passé le 6 janvier. On a annoncé aujourd'hui qu'on allait mettre sur pied une commission indépendante pour enquêter là, de fond en comble, sur ce qui s'est passé, ce qui a mené aux attentats du 6 janvier. Et on veut quelque chose qui, tu t'en rappelleras sans doute, là, ce qu'on a vu dans le cadre du 11 septembre, là, une commission indépendante qui fait le point. Donc, on va faire ça et ça se veut bipartisan aussi, donc ou plutôt apartisan, non partisan. Donc, c'est
mais
majeur.
Est-ce que ça va, dans le cas de la commission sur le 11 septembre, il me semble que c'est des élus qui avaient enquêté, non?
Oui, c'est pour ça que j'hésite à dire que c'est non partisan. C'est partisan et politique dans la mesure où, oui, tu as raison, le Congrès avait un rôle fondamental là-dedans, mais on ne veut pas que ça soit une commission qui est démocrate ou qui est républicaine. On veut une commission qui est vue et qui opère de façon nationale et non pas partisane.
Ça va être dur, Raphaël.
Oui.
Là.
Oui.
Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit des parlementaires qui enquêtent sur ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole.
Ça serait ça l'idée, de ce que j'en comprends. Mais tu as raison. Et c'est sûr que ça ne sera pas évident parce que là-dedans, tu vas avoir encore une bonne gang de parlementaires, d'élus qui, sans nécessairement louanger Donald Trump, ont été carrément des apologistes pour lui du début à la fin. Mais je peux juste te dire ce qui est visé. Ce qui est visé, c'est ça, pour éviter que se reproduise une tragédie nationale de la sorte.
On se parle demain, Raphaël. Merci.
À demain.